Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. Lors de cette 8e série d'études consacrée au livre de l'Exode, nous abordons le chapitre 20. Il s'agit de l'un des chapitres les plus importants de toute la Bible, car il contient les 10 commandements. La dernière fois, en compagnie de Didier, nous avons réfléchi aux 2 premiers commandements. Ils consistaient en l'interdiction de toute pratique idolâtre. Aujourd'hui, nous allons étudier le 3e commandement. Didier est de retour parmi nous pour nous faire part de ses réflexions. Didier, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Pour commencer, écoutons ce 3e commandement. Il se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 7.
Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper.
En fait, il n'est pas facile de trouver la traduction exacte de ce commandement. D'autres versions de la Bible le traduisent ainsi. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » ou bien « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère ». En bref, je suis persuadé que ce commandement nous interdit toute utilisation du nom de Dieu à de mauvaises fins.
Pouvez-vous nous dire quelles mauvaises utilisations sont visées par ce commandement ?
Oui, dans un premier temps, nous allons parler de ceux qui se servent du nom de Dieu ou de Jésus-Christ comme si c'était un juron ou un gros mot. Il s'agit là d'un comportement inapproprié et blasphématoire pour quiconque fait cela, mais surtout pour le croyant. Si nous aimons Dieu, comment pourrions-nous donc employer son nom de cette manière ? Prononcer le nom de Dieu sous forme de juron ou d'insulte pour exprimer sa frustration ou sa colère est un manque de respect envers lui. Prononcer son nom de cette manière revient aussi à le calomnier. Et ce que nous communiquons ainsi de lui ne reflète aucunement la beauté de sa personne. Lorsque quelqu'un se sert du nom de notre mère, ou père, ou femme, ou mari, comme un juron, nous sommes offensés. Et cela est normal. Il s'agit d'une insulte. Le nom de notre bien-aimé est traîné dans la boue, et sa réputation atteinte par des calomnies. Alors il est d'autant plus vrai que l'emploi du nom de Dieu, comme si c'était un juron, est une offense contre sa personne et contribue à entacher sa réputation aux yeux du monde. Pour toutes ces raisons, nous devons chercher à protéger le nom de Dieu, le respecter et le révérer.
Merci Didier. Existe-t-il d'autres moyens d'utiliser le nom de Dieu à de mauvaises fins ?
Oui, je reviens à la première traduction que nous avons citée. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Je crois qu'en citant le nom de Dieu, on peut tromper les autres de plusieurs manières.
Mais quelle est la première ?
Prenons l'exemple des serments. Un serment est une promesse ou un engagement assez formel, et souvent, pour appuyer un serment, certains le prononcent au nom de Dieu, car ils croient que les paroles ainsi prononcées sont plus dignes de confiance. De ce fait, certaines personnes sans scrupules peuvent se servir du nom de Dieu pour gagner la confiance des autres, alors qu'en réalité, elles n'ont pas du tout l'intention d'honorer leur engagement. Ainsi, prononcer un serment en utilisant le nom de Dieu, sans avoir l'intention d'accomplir sa promesse, ne respecte pas du tout le commandement que nous étudions. Cette attitude est une attitude de désobéissance, qui vise à tromper et qui touche la réputation de Dieu.
Merci. Et c'est la deuxième fois que vous dites que ceux qui désobéissent à ce commandement manquent de respect envers Dieu et entachent leur réputation.
Oui, je pense que justement, le but de ce commandement est de protéger la réputation de Dieu. Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui n'honore pas son serment prononcé en prenant l'Éternel pour témoin. Tôt ou tard, les gens découvriront que ses paroles n'étaient pas dignes de confiance. Que cette personne elle-même n'est pas digne de confiance. Cela est très grave. Du fait que cette personne s'est servie du nom de Dieu pour prêter serment, les gens peuvent aussi commencer à se demander si Dieu lui-même est digne de confiance. Il faut se le rappeler, la façon dont nous nous servons du nom de Dieu va influencer ce que les autres pensent de Dieu. Cette notion me conduit à la troisième mauvaise utilisation du nom de Dieu que je voudrais citer.
D'accord, quelle est-elle ?
Je suis persuadé que ce commandement doit remettre en question les propos et les agissements de tout faux prophète et faux enseignant. En effet, tout faux prophète ou faux enseignant prétend avoir reçu des messages ou des visions de la part de Dieu, alors que cela n'est pas le cas. Ils annoncent ces mensonges au nom de Dieu, ce qui leur donne une certaine autorité et de l'importance. Ils induisent ainsi les gens en erreur, jusqu'à manipuler les gens afin de les asservir et obtenir d'eux des gains financiers ou des faveurs sexuelles. D'autres annoncent aussi des promesses alléchantes de prospérité et de réussite, qui ne reflète pas une bonne interprétation de la Bible.
Oui, je vois que tout faux prophète ou tout faux enseignant cherche à tromper les gens en utilisant le nom de Dieu, ce que ce troisième commandement interdit clairement.
Et, une fois de plus, ce commandement vise à protéger la bonne réputation de Dieu. Mais on peut aussi ajouter qu'il vise à protéger le bien-être spirituel des gens. Les faux enseignants et les fausses prophéties sont comme des calomnies qui représentent Dieu d'une manière qui n'est pas vraie. Si, par exemple, une personne calomnie l'un de nos proches en colportant des informations mensongères à son sujet, cela suscite en nous un sentiment de juste colère. De la même manière, le fait que des gens répandent de fausses informations sur Dieu devrait nous contrarier. Cependant, les fausses prophéties et les faux enseignements égare les gens sur des chemins dangereux et malheureux. Ces mensonges empêchent les gens de bien connaître Dieu et de recevoir ses véritables bénédictions spirituelles. Ces mensonges peuvent affaiblir la foi des croyants sincères et être à l'origine de problèmes pastoraux importants. Ces fausses doctrines peuvent livrer des gens entre les mains de personnes sans scrupules et ils peuvent devenir victimes de leur maltraitance ou de leur manipulation.
Merci, je comprends effectivement que ce commandement est là pour notre bien. Il est là pour protéger la bonne réputation de Dieu et toute vérité le concernant. Il inclut également la protection de notre bien-être spirituel et la relation que nous entretenons avec Dieu. Mais comment alors se protéger des faux prophètes et des faux enseignants?
C'est vrai, Yann, que cela n'est pas toujours facile, surtout si l'on ne possède pas de Bible. Tout d'abord, il ne faut pas croire tout de suite tout ce que l'on peut nous enseigner au nom de Jésus. Il vaut mieux tout peser à la lumière de la parole de Dieu et en discuter avec des chrétiens matures qui ont, nous l'espérons, du discernement. Il faut prier afin que l'Esprit de Dieu nous éclaire sur ce qui est vrai ou faux. Prenons pour exemple l'attitude des gens de la ville de Bérée à qui l'apôtre Paul a apporté la bonne nouvelle de Jésus. Ils, je cite, « accueillir la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. » Dans un monde où beaucoup d'idées fausses sont annoncées par des gens convaincants et charismatiques, nous ferons bien d'adopter cette attitude d'examiner les Écritures, c'est-à-dire la Bible, pour discerner si ce que l'on nous dit est vrai et juste.
Merci Didier de nous avoir aidé à bien comprendre toute la portée de ce troisième commandement. La prochaine fois, nous aborderons ensemble le quatrième commandement qui traite le thème du jour du sabbat, autrement dit, du jour du repos.
C'est exact, Yann. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
À présent, nous revenons sur les serments ou les promesses faites pour réfléchir à l'enseignement de Jésus à ce sujet. Tout à l'heure, Claude nous fera part de quelques courtes réflexions. Mais d'abord, notre lectrice va nous lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 33 à 37. Ce sont les paroles de Jésus.
Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « je le jure par le ciel », car le ciel, c'est le trône de Dieu. ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable.
De toute évidence, à l'époque de Jésus, la question des serments, c'est-à-dire des promesses, faites tout en jurant sur quelqu'un ou quelque chose, était un sujet de discussion sensible. Sur quoi avait-on le droit de jurer? Et sur quoi fallait-il s'abstenir de jurer? Jésus, quant à lui, tranche clairement sur cette question. Selon lui, les serments ne doivent pas avoir de place dans notre vie. Selon Jésus, il n'est pas du tout nécessaire ou approprié de jurer sur quoi que ce soit pour appuyer une promesse. Nous devons être des personnes de confiance. Nos promesses, ainsi que toutes nos paroles, doivent être dignes de confiance. Nous devons dire la vérité en toutes circonstances et pas seulement lorsque nous sommes placés sous serment. Nous devons tenir, dans la mesure du possible, tous nos engagements, et pas seulement ceux qui sont appuyés par un serment. Et pourquoi faire plus confiance à un serment qu'à une promesse normale? Après tout, celui qui manque d'intégrité est tout à fait capable de ne pas dire la vérité et ne pas tenir ses promesses, même faites sous serment. Jésus appelle donc ses disciples à l'intégrité et l'honnêteté en toutes circonstances. Toutes les paroles et tous les engagements du disciple doivent être dignes de confiance.
Merci Claude pour cette exhortation. Avant de terminer notre émission, je voudrais m'adresser à toute personne qui est consciente d'avoir désobéi à ce troisième commandement ou à d'autres commandements. Je voudrais rappeler que la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'adresse à vous. La loi révèle que nous sommes de nature des gens pécheurs. Les désirs de notre cœur tendent vers le mal et tôt ou tard nous désobéissons à Dieu. Du coup, nous avons besoin d'un sauveur. Or, Jésus est justement venu pour sauver son peuple de ses péchés, car à notre place, il a subi le juste châtiment de nos péchés. Tous nos actes de désobéissance peuvent être pardonnés, et nous pouvons renouer une relation personnelle et épanouissante avec Dieu. Comment recevoir ce salut? Comment recevoir le pardon de nos péchés? C'est par une repentance sincère et en mettant notre foi en Jésus-Christ que nous recevrons ces bénédictions merveilleuses. Je rappelle que la prochaine fois, nous aborderons le quatrième commandement, celui qui nous appelle à respecter le jour du repos. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.